Chapitre 10 Formation des langues du Nord. À la longue, tous hommes deviennent semblables, mais l'ordre de leur progrès est différent. Dans les climats méridionaux, où la nature est prodigue, les besoins naissent des passions. Dans les pays froids, où elle est avare, les passions naissent des besoins. Et les langues, tristes filles de la nécessité, se sentent de leur dure origine. Quoique l'homme s'accoutume aux intempéries de l'air, au froid, au malaise, même à la faim, il y a pourtant un point où la nature succombe. En proie à ces cruelles épreuves, tout ce qui est débile périt, tout le reste se renforce, et il n'y a point de milieu entre la vigueur et la mort. Voilà d'où vient que les peuples septentrionaux sont si robustes. Ce n'est pas d'abord le climat qui les a rendus tels, mais il n'a souffert que ce qu'il était, et il n'est pas étonnant que les enfants gardent la bonne constitution de leur père. On voit déjà que les hommes plus robustes doivent avoir des organes moins délicats, leurs voix doivent être plus âpres et plus fortes. D'ailleurs, quelle différence entre des inflexions touchantes qui viennent des mouvements de l'âme aux cris qu'arrachent les besoins physiques. Dans ces affreux climats où tout est mort durant 9 mois de l'année, où le soleil n'échauffe l'air quelques semaines que pour apprendre aux habitants de quels biens ils sont privés et prolonger leur misère dans ces lieux où la terre ne donne rien qu'à force de travail, et où la source de la vie semble être plus dans les bras que dans le cœur, les hommes, sans cesse occupés à pourvoir à leur subsistance, songeaient à peine à des liens plus doux. Tout se bornait à l'impulsion physique. L'occasion faisait le choix, la facilité faisait la préférence. L'oisiveté qui nourrit les passions fit place au travail qui les réprime. Avant de songer à vivre heureux, il fallait songer à vivre. Le besoin mutuel unissant les hommes, bien mieux que le sentiment n'aurait fait. La société ne se forma que par l'industrie. Le continuel danger de périr ne permettait pas de se borner à la langue du geste. Et le premier mot ne fut pas chez eux « aimez-moi », mais « aidez-moi ». Ces deux termes, quoique assez semblables, se prononcent d'un ton bien différent. On n'avait rien à faire sentir, on avait tout à faire entendre. Il ne s'agissait donc pas d'énergie, mais de clarté. À l'accent que le cœur ne fournissait pas, on substitua des articulations fortes et sensibles. Et s'il y eut, dans la forme du langage, quelque impression naturelle, cette impression contribuait encore à sa dureté. En effet, les hommes septentrionaux ne sont pas sans passion, mais ils en ont d'une autre espèce. Celles des pays chauds sont des passions voluptueuses qui tiennent à l'amour et à la mollesse. La nature fait tant pour les habitants qu'ils n'ont presque rien à faire. Pourvu qu'un Asiatique ait des femmes et du repos, il est content. Mais dans le Nord, où les habitants consomment beaucoup sur un sol ingrat, des hommes soumis à tant de besoins sont faciles à irriter. Tout ce qu'on fait autour d'eux les inquiète. Comme ils ne subsistent qu'avec peine, plus ils sont pauvres, plus ils tiennent au peu qu'ils ont. Les approcher, c'est attenter à leur vie. De là leur vient ce tempérament irascible, si prompt à se tourner en fureur contre tout ce qui les blesse. Ainsi, leurs voix les plus naturelles sont celles de la colère et des menaces, et ces voix s'accompagnent toujours d'articulations fortes qui les rendent dures et bruyantes. Chapitre 11 Réflexion sur ces différences. Voilà, selon mon opinion, les causes physiques les plus générales de la différence caractéristique des primitives langues. Celles du Midi durent être vives, sonores, accentuées, éloquentes et souvent obscures à force d'énergie. Celles du Nord durent être sourdes, rudes, articulées, criarde, monotone, claire, à force de mots plutôt que par une bonne construction. Les langues modernes, 100 fois mêlées et refondues, gardent encore quelque chose de ces différences. Le français, l'anglais, l'allemand sont le langage privé des hommes qui s'entraident, qui raisonnent entre eux, de sang-froid, ou de gens emportés qui se fâchent. Mais les ministres des dieux annonçant les mystères sacrés, les sages donnant des lois au peuple, les chefs entraînant la multitude, doivent parler arabe ou persan. Nos langues valent mieux écrites que parlées, et l'on nous lit avec plus de plaisir qu'on ne nous écoute. Au contraire, les langues orientales écrites perdent leur vie et leur chaleur. Le sens n'est qu'à moitié dans les mots. Toute sa force est dans les accents. Juger du génie des orientaux par leurs livres, c'est vouloir peindre un homme sur son cadavre. Pour bien apprécier les actions des hommes, il faut les prendre dans tous leurs rapports, et c'est ce qu'on ne nous apprend point à faire. Quand nous nous mettons à la place des autres, nous nous y mettons toujours tels que nous sommes modifiés, non tels qu'ils doivent l'être. Et quand nous pensons les juger sur la raison, nous ne faisons que comparer leurs préjugés aux nôtres. Tel, pour savoir lire un peu d'arabe, sourit en feuilletant l'Alcoran, qui, s'il eût entendu Mahomet l'annoncer en personne dans cette langue éloquente et cadencée, avec cette voix sonore et persuasive qui séduisait l'oreille avant le cœur, et sans cesse animant ses sentences de l'accent de l'enthousiasme, se fût prosterné contre terre en criant « Grand prophète envoyé de Dieu, menez-nous à la gloire, au martyr, nous voulons vaincre ou mourir pour vous ». Le fanatisme nous paraît toujours risible parce qu'il n'a point de voix parmi nous pour se faire entendre. Nos fanatiques même ne sont pas de vrais fanatiques. Ce ne sont que des fripons ou des fous. Nos langues, au lieu d'inflexion pour des inspirés, n'ont que des cris pour des possédés du diable. Chapitre 12. Origine de la musique et ses rapports. Avec les premières voix se formèrent les premières articulations, ou les premiers sons, selon le genre de la passion qui dictait les uns ou les autres. La colère arrache des cris menaçants que la langue et le palais articulent. Mais la voix de la tendresse est plus douce, c'est la glotte qui la modifie, et cette voix devient un son. Seulement, les accents en sont plus fréquents ou plus rares, les inflexions plus ou moins aiguës, selon le sentiment qui s'y joint. Ainsi, la cadence et les sons naissent avec les syllabes. La passion fait parler tous les organes et par la voix de tout leur éclat. Ainsi, les vers, les chants, la parole ont une origine commune. Autour des fontaines dont j'ai parlé, les premiers discours furent les premières chansons. Les retours périodiques et mesurés du rythme, les inflexions mélodieuses des accents firent naître la poésie et la musique avec la langue. Ou plutôt, tout cela n'était que la langue même pour ces heureux climats et ces heureux temps, où les seuls besoins pressants qui demandaient le concours d'autrui étaient ceux que le cœur faisait naître. Les premières histoires, les premières harangues, les premières lois furent en vers. La poésie fut trouvée avant la prose. Cela devait être puisque les passions parlèrent avant la raison. Il en fut de même de la musique. Il n'y eut point d'abord d'autre musique que la mélodie, ni d'autre mélodie que le son varié de la parole. Les accents formaient le chant, les quantités formaient la mesure. Et l'on parlait autant par les sons et par le rythme que par les articulations et les voix. Dire et chanter étaient autrefois la même chose, dit Strabon. Ce qui montre, ajoute-t-il, que la poésie est la source de l'éloquence. Il fallait dire que l'une et l'autre eurent la même source, et ne furent d'abord que la même chose. Sur la manière dont se lièrent les premières sociétés, était-il étonnant qu'on mît en vers les premières histoires, et qu'on chantât les premières lois ? Était-il étonnant que les premières grammairiens soumissent leur art à la musique ? Et fussent à la fois professeurs de l'un et de l'autre. Une langue qui n'a que des articulations et des voix n'a donc que la moitié de sa richesse. Elle rend des idées, il est vrai, mais pour rendre des sentiments, des images, il lui faut encore un rythme et des sons, c'est-à-dire une mélodie. Voilà ce qu'avait la langue grecque et ce qui manque à la nôtre. Nous sommes toujours dans l'étonnement sur les effets prodigieux de l'éloquence, de la poésie et de la musique parmi les Grecs. Ces effets ne s'arrangent point dans nos têtes parce que nous n'en éprouvons plus de pareils. Et tout ce que nous pouvons gagner sur nous, en les voyant si bien attestés, est de faire semblant de les croire par complaisance pour nos savants. Burette, ayant traduit comme il put, en notes de notre musique, certains morceaux de musique grecque, eut la simplicité de faire exécuter ces morceaux à l'Académie des Belles-Lettres, et les académiciens eurent la patience de les écouter. J'admire cette expérience dans un pays dont la musique est indéchiffrable pour toute autre nation. Donnez un monologue d'opéra français à exécuter par tels musiciens étrangers qu'il vous plaira. Je vous défie d'y rien reconnaître. Ce sont pourtant ces mêmes Français qui prétendaient juger la mélodie d'une ode de Pindare mise en musique il y a 2000 ans. J'ai lu qu'autrefois en Amérique, les Indiens, voyant l'effet étonnant des armes à feu, ramassaient à terre des balles de mousquet. Puis les jetant avec la main, en faisant un grand bruit de la bouche, ils étaient tous surpris de n'avoir tué personne. Nos orateurs, nos musiciens, nos savants ressemblent à ces Indiens. Le prodige n'est pas qu'avec notre musique, nous ne fassions plus ce que faisaient les Grecs avec la leur. Il serait, au contraire, qu'avec des instruments si différents, on produisit les mêmes effets. Chapitre 13. De la mélodie. L'homme est modifié par ses sens, personne n'en doute. Mais faute de distinguer les modifications, nous en confondons les causes. Nous donnons trop et trop peu d'empire aux sensations. Nous ne voyons pas que souvent elles ne nous affectent point seulement comme sensations, mais comme signes ou images, et que leurs effets moraux ont aussi des causes morales. Comme les sentiments qu'excite en nous la peinture ne viennent point des couleurs, l'empire que la musique a sur nos âmes n'est point l'ouvrage des sons. De belles couleurs bien nuancées plaisent à la vue, mais ce plaisir est purement de sensation. C'est le dessin, c'est l'imitation qui donne à ces couleurs de la vie et de l'âme. Ce sont les passions qu'elles expriment qui viennent émouvoir les nôtres. Ce sont les objets qu'elles représentent qui viennent nous affecter. L'intérêt et le sentiment ne tiennent point aux couleurs. Les traits d'un tableau touchant nous touchent encore dans une estampe. Ôtez ces traits dans le tableau. Les couleurs ne feront plus rien. La mélodie fait précisément dans la musique ce que fait le dessin dans la peinture. C'est elle qui marque les traits et les figures, dont les accords et les sons ne sont que les couleurs. Mais dira-t-on, la mélodie n'est qu'une succession de sons ? Sans doute, mais le dessin n'est aussi qu'un arrangement de couleurs. Un orateur se sert d'encre pour tracer ses écrits. Est-ce à dire que l'encre soit une liqueur fort éloquente ? Supposez un pays où l'on n'aurait aucune idée du dessin, mais où beaucoup de gens passant leur vie à combiner, mêler, nuer des couleurs, croiraient exceller en peinture. Ces gens-là raisonneraient de la nôtre précisément comme nous raisonnons de la musique des Grecs. Quand on leur parlerait de l'émotion que nous causent de beaux tableaux et du charme de s'attendrir devant un sujet pathétique, leurs savants approfondiraient aussitôt la matière, compareraient leurs couleurs aux nôtres, examineraient si notre vert est plus tendre ou notre rouge plus éclatant. Ils chercheraient quels accords de couleurs peuvent faire pleurer, quels autres peuvent mettre en colère. Les burettes de ce pays-là rassembleraient sur des guenilles quelques lambeaux défigurés de nos tableaux, puis on se demanderait avec surprise ce qu'il y a de si merveilleux dans ce coloris. Que si, dans quelques nations voisines, on commençait à former quelques traits, quelques ébauches de dessins, quelques figures encore imparfaites, tout cela passerait pour du barbouillage, pour une peinture capricieuse et baroque. Et l'on s'en tiendrait, pour conserver le goût, à ce beau simple qui véritablement n'exprime rien, mais qui fait briller de belles nuances, de grandes plaques bien colorées, de longues dégradations de teintes sans aucun trait. Enfin, peut-être, à force de progrès, on viendrait à l'expérience du prisme. Aussitôt, quelque artiste célèbre établirait là-dessus un beau système. « Messieurs, leur dirait-il, pour bien philosopher, il faut remonter aux causes physiques. Voilà la décomposition de la lumière. Voilà toutes les couleurs primitives. Voilà leurs rapports, leurs proportions. Voilà les vrais principes du plaisir que vous fait la peinture. » Tous ces mots mystérieux de dessin, de représentation, de figure, sont une pure charlatanerie des peintres français, qui, par leurs imitations, pensent donner je ne sais quel mouvement à l'âme, tandis qu'on sait qu'il n'y a que des sensations. On vous dit des merveilles de leurs tableaux, mais voyez mes teintes. Les peintres français, continueraient-ils, ont peut-être observé l'arc-en-ciel. Ils ont pu recevoir de la nature quelques goûts de nuances et quelques instincts de coloris. Moi, je vous ai montré les grands, les vrais principes de l'art. Que dis-je de l'art, de tous les arts, messieurs, de toutes les sciences ? L'analyse des couleurs, le calcul des réfractions du prisme vous donnent les seuls rapports exacts qui soient dans la nature la règle de tous les rapports. Or, tout dans l'univers n'est que rapport. On sait donc tout quand on sait peindre. On sait tout quand on sait assortir des couleurs. Que dirions-nous du peintre assez dépourvu de sentiments et de goûts pour raisonner de la sorte et borner stupidement au physique de son art le plaisir que nous fait la peinture? Que dirions-nous du musicien qui, plein de préjugés semblables, croirait voir dans la seule harmonie la source des grands effets de la musique? Nous enverrions le premier mettre en couleur des boiseries et nous condamnerions l'autre à faire des opéras français. Comme donc la peinture n'est pas l'art de combiner des couleurs d'une manière agréable à la vue, la musique n'est pas non plus l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. S'il n'y avait que cela, l'une et l'autre seraient au nombre des sciences naturelles et non pas des beaux-arts. C'est l'imitation seule qui les élève à ce rang. Or, qu'est-ce qui fait de la peinture un art d'imitation? C'est le dessin. Qu'est-ce qui de la musique en fait un autre? C'est la mélodie. Chapitre 14. De l'harmonie. La beauté des sons et de la nature, leur effet est purement physique. Il résulte du concours des diverses particules d'air mises en mouvement par le corps sonore et par toutes ses alicotes, peut-être à l'infini, le tout ensemble donne une sensation agréable. Tous les hommes de l'univers prendront plaisir à écouter de beaux sons. Mais si ce plaisir n'est animé que par des inflexions mélodieuses qui leur soient familières, il ne sera point délicieux. Il ne se changera point en volupté. Les plus beaux chants, à notre gré, toucheront toujours médiocrement une oreille qui n'y sera point accoutumée. C'est une langue dont il faut avoir le dictionnaire. L'harmonie proprement dite est dans un cas bien moins favorable encore. N'ayant que des beautés de convention, elle ne flatte à nul égard les oreilles qui n'y sont pas exercées. Il faut en avoir une longue habitude pour la sentir et pour la goûter. Les oreilles rustiques n'entendent que du bruit dans nos consonances. Quand les proportions naturelles sont altérées, il n'est pas étonnant que le plaisir naturel n'existe plus. Un son porte avec lui tous ces sons harmoniques concomitants dans les rapports de force et d'intervalle qu'ils doivent avoir entre eux, pour donner la plus parfaite harmonie de ce même son. Ajoutez-y la tierce, ou la quinte, ou quelque autre consonance. Vous ne l'ajoutez pas, vous la redoublez, vous laissez le rapport d'intervalle, mais vous altérez celui de force. En renforçant une consonance et non pas les autres, vous rompez la proportion. En voulant faire mieux que la nature, vous faites plus mal. vos oreilles et votre goût sont gâtés par un art mal entendu. Naturellement, il n'y a point d'autre harmonie que l'unisson. M. Rameau prétend que les « dessus » d'une certaine simplicité suggèrent naturellement leur basse, et qu'un homme ayant l'oreille juste et non exercée entonnera naturellement cette basse. C'est là un préjugé de musicien démenti par toute expérience. Non seulement celui qui n'aura jamais entendu ni basse ni harmonie ne trouvera de lui-même ni cette harmonie ni cette basse, mais même elles lui déplairont si on les lui fait entendre et il aimera beaucoup mieux le simple unisson. Quand on calculerait 1000 ans les rapports des sons et les lois de l'harmonie, comment fera-t-on jamais de cet art un art d'imitation ? Où est le principe de cette imitation prétendue ? De quoi l'harmonie est-elle signe ? Et qu'y a-t-il de commun entre des accords et nos passions ? Qu'on fasse la même question sur la mélodie. La réponse vient d'elle-même. Elle est d'avance dans l'esprit des lecteurs. La mélodie, en imitant les inflexions de la voix, exprime les plaintes, les cris de douleur ou de joie, les menaces, les gémissements. Tous les signes vocaux des passions sont de son ressort. Elle imite les accents des langues et les tours affectés dans chaque idiome à certains mouvements de l'âme. Elle n'imite pas seulement, elle parle. Et son langage inarticulé, mais vif, ardent, passionné, a 100 fois plus d'énergie que la parole même. Voilà d'où naît la force des imitations musicales. Voilà d'où naît l'empire du chant sur les cœurs sensibles. L'harmonie y peut concourir en certains systèmes, en liant la succession des sons par quelques lois de modulation, en rendant les intonations plus justes, en portant à l'oreille un témoignage assuré de cette justesse, en rapprochant et fixant à des intervalles consonants et liés des inflexions inappréciables. Mais en donnant aussi des entraves à la mélodie, elle lui ôte l'énergie et l'expression. Elle efface l'accent passionné pour y substituer l'intervalle harmonique. Elle assujettit à 2 seuls modes des chants qui devraient en avoir autant qu'il y a de tons oratoires. Elle efface et détruit des multitudes de sons ou d'intervalles qui n'entrent pas dans son système. En un mot, elle sépare tellement le chant de la parole que ces 2 langages se combattent, se contrarient, sautent mutuellement tout caractère de vérité et ne se peuvent réunir sans absurdité dans un sujet pathétique. De là vient que le peuple trouve toujours ridicule qu'on exprime en chant les passions fortes et sérieuses, car il sait que dans nos langues, ces passions n'ont point d'inflexion musicale, et que les hommes du Nord, non plus que les cygnes, ne meurent pas en chantant. La seule harmonie est même insuffisante pour les expressions qui semblent dépendre uniquement d'elles, le tonnerre, le murmure des eaux, les vents, les orages sont mal rendus par de simples accords. Quoi qu'on fasse, le seul bruit ne dit rien à l'esprit. Il faut que les objets parlent pour se faire entendre. Il faut toujours, dans toute imitation, qu'une espèce de discours supplée à la voix de la nature. Le musicien qui veut rendre du bruit par du bruit se trompe. Il ne connaît ni le faible ni le fort de son art. Il en juge sans goût, sans lumière. Apprenez-lui qu'il doit rendre du bruit par du chant, que, s'il faisait croasser des grenouilles, il faudrait qu'il les fît chanter. Car il ne suffit pas qu'il imite, il faut qu'il touche et qu'il plaise, sans quoi sa maussade imitation n'est rien, et ne donnant d'intérêt à personne, elle ne fait nulle impression. Chapitre 15. Que nos plus vives sensations agissent souvent par des impressions morales. Tant qu'on ne voudra considérer les sons que par l'ébranlement qu'ils excitent dans nos nerfs, on n'aura point les vrais principes de la musique et de son pouvoir sur les cœurs. Les sons dans la mélodie n'agissent pas seulement sur nous comme sons, mais comme signes de nos affections, de nos sentiments. C'est ainsi qu'ils excitent en nous les mouvements qu'ils expriment et dont nous y reconnaissons l'image. on aperçoit quelque chose de cet effet moral jusque dans les animaux. L'aboiement d'un chien en attire un autre. Si mon chat m'entend imiter un miaulement, à l'instant, je le vois attentif, inquiet, agité. S'aperçoit-il que c'est moi qui contrefais la voix de son semblable ? Il se rassied et reste en repos. Pourquoi cette différence d'impression, puisqu'il n'y en a point dans l'ébranlement des fibres, et que lui-même y a d'abord été trompé ? Si le plus grand empire qu'ont sur nous nos sensations n'est pas dû à des causes morales, pourquoi donc sommes-nous si sensibles à des impressions qui sont nulles pour des barbares ? Pourquoi nos plus touchantes musiques ne sont-elles qu'un vain bruit à l'oreille d'un Caraïbe ? Ses nerfs sont-ils d'une autre nature que les nôtres ? Pourquoi ne sont-ils pas ébranlés d'eux-mêmes ? Ou pourquoi ces mêmes ébranlements affectent-ils tant les uns et si peu les autres ? On cite, en preuve du pouvoir physique des sons, la guérison des piqûres des tarentules. Cet exemple prouve tout le contraire. Il ne faut ni des sons absolus, ni les mêmes airs pour guérir tous ceux qui sont piqués de cet insecte. Il faut à chacun d'eux des airs d'une mélodie qui lui soit connue et des phrases qu'il comprenne. Il faut à l'italien des airs italiens. Au turc, il faudrait des airs turcs. Chacun n'est affecté que des accents qui lui sont familiers. Ses nerfs ne s'y prêtent qu'autant que son esprit les y dispose. Il faut qu'il entende la langue qu'on lui parle pour que ce qu'on lui dit puisse le mettre en mouvement. Les cantates de Bernier ont, dit-on, guéri de la fièvre un musicien français. Elles l'auraient donné à un musicien de toute autre nation. Dans les autres sens, et jusqu'au plus grossier de tous, on peut observer les mêmes différences. Qu'un homme, ayant la main posée et l'œil fixé sur le même objet, le croit successivement animé et inanimé, quoique les sens soient frappés de même, quel changement dans l'impression ! La rondeur, la blancheur, la fermeté, la douce chaleur, la résistance élastique, le renflement successif, ne lui donnent plus qu'un toucher doux mais insipide, s'il ne croit sentir un cœur plein de vie palpiter et battre sous tout cela. Je ne connais qu'un sens aux affections duquel rien de moral ne se mêle, c'est le goût. Aussi, la gourmandise n'est-elle jamais le vice dominant que des gens qui ne sentent rien. Que celui donc qui veut philosopher sur la force des sensations commence par écarter des impressions purement sensuelles, les impressions intellectuelles et morales que nous recevons par la voie des sens, mais dont ils ne sont que les causes occasionnelles. Qu'il évite l'erreur de donner aux objets sensibles un pouvoir qu'ils n'ont pas, ou qu'ils tiennent des affections de l'âme qu'ils nous représentent. Les couleurs et les sons peuvent beaucoup comme représentations et signes, peu de choses comme simples objets d'essence. Des suites de sons ou d'accords m'amuseront un moment peut-être, mais pour me charmer et m'attendrir, il faut que ces suites m'offrent quelque chose qui ne soit ni son ni accord et qui me vienne émouvoir malgré moi. Les chants même qui ne sont qu'agréables et ne disent rien lassent encore. Car ce n'est pas tant l'oreille qui porte le plaisir au cœur que le cœur qui le porte à l'oreille. Je crois qu'en développant mieux ces idées, on se fût épargné bien de sots raisonnements sur la musique ancienne. Mais dans ce siècle où l'on s'efforce de matérialiser toutes les opérations de l'âme et d'ôter toute moralité aux sentiments humains, je suis trompé si la nouvelle philosophie ne devient aussi funeste au bon goût qu'à la vertu. Chapitre 16. Fausse analogie entre les couleurs et les sons. Il n'y a sorte d'absurdités auxquelles les observations physiques n'aient donné lieu dans la considération des beaux-arts. On a trouvé dans l'analyse du son les mêmes rapports que dans celle de la lumière. Aussitôt, on a saisi vivement cette analogie sans s'embarrasser de l'expérience et de la raison. L'esprit de système a tout confondu. Et faute de savoir peindre aux oreilles, on s'est avisé de chanter aux yeux. J'ai vu ce fameux clavecin sur lequel on prétendait faire de la musique avec des couleurs. C'était bien mal connaître les opérations de la nature, de ne pas voir que l'effet des couleurs est dans leur permanence et celui des sons dans leur succession. Toutes les richesses du coloris s'étalent à la fois sur la face de la terre. Du premier coup d'œil, tout est vu. Mais plus on regarde et plus on est enchanté. Il ne fait plus qu'admirer et contempler sans cesse. Il n'en est pas ainsi du son. La nature ne l'analyse point et n'en sépare point les harmoniques, elle les cache au contraire sous l'apparence de l'unisson. Ou, si quelquefois elle les sépare dans le chant modulé de l'homme et dans le ramage de quelques oiseaux, c'est successivement et l'un après l'autre. Elle inspire des chants et non des accords, elle dicte de la mélodie et non de l'harmonie. Les couleurs sont la parure des êtres inanimés, toute matière est colorée, mais les sons annoncent le mouvement, la voix annonce un être sensible. Il n'y a que des corps animés qui chantent. Ce n'est pas le flûteur automate qui joue de la flûte, c'est le mécanicien qui mesura le vent et fit mouvoir les doigts. Ainsi, chaque sens a son chant qui lui est propre. Le chant de la musique est le temps, celui de la peinture est l'espace. Multiplier les sons entendus à la fois, ou développer les couleurs l'une après l'autre, c'est changer leur économie, c'est mettre l'œil à la place de l'oreille et l'oreille à la place de l'œil. Vous dites, comme chaque couleur est déterminée par l'angle de réfraction du rayon qui la donne, de même chaque son est déterminé par le nombre des vibrations du corps sonore en un temps donné. Or, les rapports de ces angles et de ces nombres étant les mêmes, l'analogie est évidente. Soit, mais cette analogie est de raison, non de sensation, et ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Premièrement, l'angle de réfraction est sensible et mesurable, et non pas le nombre des vibrations. Les corps sonores, soumis à l'action de l'air, changent incessamment de dimensions et de sons. Les couleurs sont durables, les sons s'évanouissent, et l'on n'a jamais la certitude que ceux qui renaissent soient les mêmes que ceux qui sont éteints. De plus, chaque couleur est absolue, indépendante, au lieu que chaque son n'est pour nous que relatif et ne se distingue que par comparaison. Un son n'a par lui-même aucun caractère absolu qui le fasse reconnaître. Il est grave ou aigu, fort ou doux par rapport à un autre. En lui-même, il n'est rien de tout cela. Dans le système harmonique, un son quelconque n'est rien non plus naturellement. Il n'est ni tonique, ni dominant, ni harmonique, ni fondamental, parce que toutes ses propriétés ne sont que des rapports, et que le système entier pouvant varier du grave à l'aigu, chaque son change d'ordre et de place dans le système, selon que le système change de degré. Mais les propriétés des couleurs ne consistent point en des rapports. Le jaune est jaune, indépendamment du rouge et du bleu. Partout, il est sensible et reconnaissable. Et sitôt qu'on aura fixé l'angle de réfraction qui le donne, on sera sûr d'avoir le même jaune dans tous les temps. Les couleurs ne sont pas dans les corps colorés, mais dans la lumière. Pour qu'on voie un objet, il faut qu'il soit éclairé. Les sons ont aussi besoin d'un mobile, et pour qu'il existe, il faut que le corps sonore soit ébranlé. C'est un autre avantage en faveur de la vue, car la perpétuelle émanation des astres est l'instrument naturel qui agit sur elle. Au lieu que la nature seule engendre peu de sons, et à moins qu'on admette l'harmonie des sphères célestes, il faut des êtres vivants pour la produire. On voit par là que la peinture est plus près de la nature et que la musique tient plus à l'art humain. On sent aussi que l'une intéresse plus que l'autre, précisément parce qu'elle rapproche plus l'homme de l'homme et nous donne toujours quelques idées de nos semblables. La peinture est souvent morte et inanimée. Elle vous peut transporter au fond d'un désert, mais sitôt que des signes vocaux frappent votre oreille, ils vous annoncent un être semblable à vous. Ils sont, pour ainsi dire, les organes de l'âme. et s'ils vous peignent aussi la solitude, ils vous disent que vous n'y êtes pas seul. Les oiseaux sifflent, l'homme seul chante. Et l'on ne peut entendre ni chant ni symphonie sans se dire à l'instant « un autre être sensible est ici ». C'est un des grands avantages du musicien, de pouvoir peindre les choses qu'on ne saurait entendre, tandis qu'il est impossible au peintre de représenter celles qu'on ne saurait voir. Et le plus grand prodige d'un art qui n'agit que par le mouvement est d'en pouvoir former jusqu'à l'image du repos. Le sommeil, le calme de la nuit, la solitude et le silence même entrent dans les tableaux de la musique. On sait que le bruit peut produire l'effet du silence, et le silence l'effet du bruit, comme quand on s'endort à une lecture égale et monotone et qu'on s'éveille à l'instant qu'elle cesse. Mais la musique agit plus intimement sur nous, en excitant par un sens des affections semblables à celles qu'on peut exciter par un autre. Et comme le rapport ne peut être sensible que l'impression ne soit forte, la peinture, dénuée de cette force, ne peut rendre à la musique les imitations que celle-ci tire d'elle. Que toute la nature soit endormie, celui qui la contemple ne dort pas. Et l'art du musicien consiste à substituer à l'image insensible de l'objet celle des mouvements que sa présence excite dans le cœur du contemplateur. Non seulement il agitera la mer, animera la flamme d'un incendie, fera couler les ruisseaux, tomber la pluie et grossir les torrents, mais il peindra l'horreur d'un désert affreux, rembrunira les murs d'une prison souterraine, calmera la tempête, rendra l'air tranquille et serein, et répandra de l'orchestre une fraîcheur nouvelle sur les bocages. Il ne représentera pas directement ces choses, mais il excitera dans l'âme les mêmes sentiments qu'on éprouve en les voyant. Chapitre 17. Erreurs des musiciens nuisibles à leur art. Voyez comment tout nous ramène sans cesse aux effets moraux dont j'ai parlé, et combien les musiciens, qui ne considèrent la puissance des sons que par l'action de l'air et l'ébranlement des fibres, sont loin de connaître en quoi réside la force de cet art. Plus ils le rapprochent des impressions purement physiques, plus ils l'éloignent de son origine, et plus ils lui ôtent aussi de sa primitive énergie. En quittant l'accent oral et s'attachant aux seules institutions harmoniques, la musique devient plus bruyante à l'oreille et moins douce au cœur. Elle a déjà cessé de parler, bientôt elle ne chantera plus, et alors, avec tous ses accords et toute son harmonie, elle ne fera plus aucun effet sur nous. Chapitre 18. Que le système musical des Grecs n'avait aucun rapport au nôtre. Comment ces changements sont-ils arrivés ? Par un changement naturel du caractère des langues. On sait que notre harmonie est une invention gothique. Ceux qui prétendent trouver le système des Grecs dans le nôtre se moquent de nous. Le système des Grecs n'avait absolument d'harmonique dans notre sens que ce qu'il fallait pour fixer l'accord des instruments sur des consonances parfaites. Tous les peuples qui ont des instruments à cordes sont forcés de les accorder par des consonances, mais ceux qui n'en ont pas ont dans leur chant des inflexions que nous nommons fausses, parce qu'elles n'entrent pas dans notre système et que nous ne pouvons les noter. C'est ce qu'on a remarqué sur les chants des sauvages de l'Amérique, et c'est ce qu'on aurait dû remarquer aussi sur divers intervalles de la musique des Grecs si l'on eût étudié cette musique avec moins de prévention pour la nôtre. Les Grecs divisaient leurs diagrammes par tétracordes, comme nous divisons notre clavier par octaves. Et les mêmes divisions se répétaient exactement chez eux, à chaque tétracorde, comme elles se répètent chez nous, à chaque octave. Similitude qu'on eût pu conserver dans l'unité du mode harmonique et qu'on n'aurait pas même imaginée. mais comme on passe par des intervalles moins grands quand on parle que quand on chante, il fut naturel qu'ils regardassent la répétition des tétracordes dans leur mélodie orale, comme nous regardons la répétition des octaves dans notre mélodie harmonique. Ils n'ont reconnu pour consonance que celle que nous appelons consonance parfaite. Ils ont rejeté de ce nombre les tierces et les sixtes. Pourquoi cela ? C'est que l'intervalle du ton mineur étant ignoré d'eux, ou du moins proscrit de la pratique, et leur consonance n'étant point tempérée, toutes leurs tierces majeures étaient trop fortes d'un comma, leurs tierces mineures trop faibles d'autant. Et par conséquent, leurs sixtes majeures et mineures réciproquement altérées d'eux-mêmes.
Qu'on s'imagine, maintenant, quelle notion d'harmonie on peut avoir ?
Et quel mode harmonique on peut établir en bannissant les tierces et les sixtes du nombre des consonances. Si les consonances mêmes qu'ils admettaient leur eussent été connues par un vrai sentiment d'harmonie, ils les auraient au moins sous-entendues au-dessous de leur chant. La consonance tacite des marches fondamentales eût prêté son nom aux marches diatoniques qu'elle leur suggérait. Loin d'avoir moins de consonances que nous, ils en auraient eu davantage, et préoccupés par exemple de la basse ut sol, ils eussent donné le nom de consonance à la seconde ut ré. Mais, dira-t-on, pourquoi donc des marches diatoniques ? Par un instinct qui, dans une langue accentuée et chantante, nous porte à choisir les inflexions les plus commodes. Car entre les modifications trop fortes qu'il faut donner à la glotte pour entonner continuellement les grands intervalles des consonances et la difficulté de régler l'intonation dans les rapports très composés des moindres intervalles, l'organe prit un milieu et tomba naturellement sur des intervalles plus petits que les consonances et plus simples que les commas. Ce qui n'empêcha pas que de moindres intervalles n'eussent aussi leur emploi dans des genres plus pathétiques. Chapitre 19. Comment la musique a dégénéré. À mesure que la langue se perfectionnait, la mélodie, en s'imposant de nouvelles règles, perdait insensiblement de son ancienne énergie, et le calcul des intervalles fut substitué à la finesse des inflexions. C'est ainsi, par exemple, que la pratique du genre en harmonique s'abolit peu à peu. Quand les théâtres eurent pris une forme régulière, on n'y chantait plus que sur des modes prescrits, et à mesure qu'on multipliait les règles de l'imitation, la langue imitative s'affaiblissait. L'étude de la philosophie et le progrès du raisonnement, ayant perfectionné la grammaire, ôtèrent à la langue ce ton vif et passionné qui l'avait d'abord rendue si chantante. Dès le temps de Bénalipide et de Philoxène, les symphonistes, qui d'abord étaient au gage des poètes et n'exécutaient que sous eux, et pour ainsi dire à leur dictée, en devinrent indépendants. Et c'est de cette licence que se plaint si amèrement la musique dans une comédie de Phérécrate dont Plutarque nous a conservé le passage. Ainsi la mélodie, commençant à n'être plus si adhérente au discours, prit insensiblement une existence à part, et la musique devint plus indépendante des paroles. Alors aussi cessèrent peu à peu ces prodiges qu'elle avait produits lorsqu'elle n'était que l'accent et l'harmonie de la poésie, et qu'elle lui donnait sur les passions cet empire que la parole n'exerça plus dans la suite que sur la raison. Aussi, dès que la Grèce fut pleine de sophistes et de philosophes, n'y vit-on plus ni poètes ni musiciens célèbres. En cultivant l'art de convaincre, on perdit celui d'émouvoir. Platon lui-même, jaloux d'Homère et d'Euripide, décria l'un et ne put imiter l'autre. Bientôt, la servitude ajouta son influence à celle de la philosophie. La Grèce, au fer, perdit ce feu qui n'échauffe que les âmes libres et ne trouva plus, pour louer ses tyrans, le ton dont elle avait chanté ses héros. Le mélange des Romains affaiblit encore ce qui restait au langage d'harmonie et d'accent, Le latin, langue plus sourde et moins musicale, fit tort à la musique en l'adoptant. Le chant employé dans la capitale altéra peu à peu celui des provinces. Les théâtres de Rome nuisirent à ceux d'Athènes. Quand Néron remportait des prix, la Grèce avait cessé d'en mériter, et la même mélodie, partagée à deux langues, convint moins à l'une et à l'autre. Enfin arriva la catastrophe qui détruisit les progrès de l'esprit humain sans ôter les vices qui en étaient l'ouvrage. L'Europe, inondée de barbares et asservie par des ignorants, perdit à la fois ses sciences, ses arts et l'instrument universel des uns et des autres, savoir la langue harmonieuse perfectionnée. Ces hommes grossiers que le Nord avait engendrés accoutumèrent insensiblement toutes les oreilles à la rudesse de leur organe. Leur voix dure et dénuée d'accent était bruyante sans être sonore. L'empereur Julien comparait le parler des Gaulois au croassement des grenouilles. Toutes leurs articulations étant aussi âpres que leur voix était nasale et sourde, ils ne pouvaient donner qu'une sorte d'éclat à leur chant qui était de renforcer le son des voyelles pour couvrir l'abondance et la dureté des consonnes. Ce chant bruyant, joint à l'inflexibilité de l'organe, obligea ces nouveaux venus et les peuples subjugués qui les imitèrent de ralentir tous les sons pour les faire entendre. L'articulation pénible et les sons renforcés concoururent également à chasser de la mélodie tout sentiment de mesure et de rythme. Comme ce qu'il y avait de plus dur à prononcer était toujours le passage d'un son à l'autre, on n'avait rien de mieux à faire que de s'arrêter sur chacun le plus qu'il était possible, de le renfler, de le faire éclater le plus qu'on pouvait. Le chant ne fut bientôt plus qu'une suite ennuyeuse et lente de sons traînants et criés, sans douceur, sans mesure et sans grâce. Et si quelques savants disaient qu'il fallait observer les longues et les brèves dans le chant latin, il est sûr au moins qu'on chanta les vers comme la prose et qu'il ne fut plus question de pied, de rythme, ni d'aucune espèce de chant mesuré. Le chant, ainsi dépouillé de toute mélodie et consistant uniquement dans la force et la durée des sons, dut suggérer enfin les moyens de le rendre plus sonore encore, à l'aide des consonances. Plusieurs voix, traînant sans cesse à l'unisson des sons d'une durée illimitée, trouvèrent, pas hasard, quelques accords qui, renforçant le bruit, le leur firent paraître agréable. Et ainsi commença la pratique du discant et du contrepoint. J'ignore combien de siècles les musiciens tournèrent autour des vaines questions que l'effet connu d'un principe ignoré leur fit agiter. Le plus infatigable lecteur ne supporterait pas dans Jean de Muris le verbiage de 8 ou 10 grands chapitres pour savoir dans l'intervalle de l'octave coupée en 2 consonances si c'est la quinte ou la quarte qui doit être au grave. Et 400 ans après, on trouve encore dans Bon Tempi des énumérations non moins ennuyeuses de toutes les basses qui doivent porter la sixte au lieu de la quinte. Cependant, l'harmonie prit insensiblement la route que lui prescrit l'analyse, jusqu'à ce qu'enfin l'invention du mode mineur et des dissonances y eût introduit l'arbitraire dont elle est pleine et que le seul préjugé nous empêche d'apercevoir. La mélodie étant oubliée et l'attention du musicien s'étant tournée entièrement vers l'harmonie, tout se dirigea peu à peu sur ce nouvel objet. Les genres, les modes, la gamme, tout reçut des faces nouvelles. Ce furent les successions harmoniques qui réglèrent la marche des parties. Cette marche, ayant usurpé le nom de mélodie, on ne put méconnaître en effet dans cette nouvelle mélodie les traits de sa mère. Et notre système musical étant ainsi devenu, par degrés, purement harmonique, il n'est pas étonnant que l'accent oral en ait souffert, et que la musique ait perdu pour nous presque toute son énergie. Voilà comment le chant devint, par degrés, un art entièrement séparé de la parole dont il tire son origine. Comment les harmoniques des sons firent oublier les inflexions de la voix. Et comment enfin, borné à l'effet purement physique du concours des vibrations, la musique se trouva privée des effets moraux qu'elle avait produits quand elle était doublement la voix de la nature. Chapitre 20. Rapport des langues au gouvernement. Ces progrès ne sont ni fortuits ni arbitraires. Ils tiennent aux vicissitudes des choses. Les langues se forment naturellement sur les besoins des hommes. Elles changent et s'altèrent selon les changements de ces mêmes besoins. Dans les anciens temps, où la persuasion tenait lieu de force publique, l'éloquence était nécessaire. À quoi servirait-elle aujourd'hui que la force publique supplée à la persuasion ? L'on n'a besoin ni d'art, ni de figure pour dire « tel est mon plaisir ». Quel discours reste donc à faire au peuple assemblé ? Des sermons. Et qu'importe à ceux qui les font de persuader le peuple, puisque ce n'est pas lui qui nomme au bénéfice ? Les langues populaires nous sont devenues aussi parfaitement inutiles que l'éloquence. Les sociétés ont pris leur dernière forme. On n'y change plus rien qu'avec du canon et des écus. Et comme on n'a plus rien à dire au peuple, sinon donner de l'argent, on le dit avec des placards au coin des rues ou des soldats dans les maisons. Il ne faut assembler personne pour cela. Au contraire, il faut tenir les sujets épars. C'est la première maxime de la politique moderne. Il y a des langues favorables à la liberté. Ce sont les langues sonores, prosodiques, harmonieuses, dont on distingue le discours de fort loin. Les nôtres sont faites pour le bourdonnement des divans. Nos prédicateurs se tourmentent, se mettent en sueur dans tes temples, sans qu'on sache rien de ce qu'ils ont dit. Après s'être épuisés à crier pendant une heure, ils sortent de la chair, à demi-morts. Assurément, ce n'était pas la peine de prendre tant de fatigue. Chez les anciens, on se faisait entendre aisément au peuple sur la place publique. On y parlait tout un jour sans s'incommoder. Les généraux haranguaient leurs troupes, on les entendait et ils ne s'épuisaient point. Les historiens modernes, qui ont voulu mettre des harangues dans leurs histoires, se sont fait moquer d'eux. Qu'on suppose un homme haranguant en français le peuple de Paris dans la place de Vendôme. Qu'il crie à pleine tête, on entendra qu'il crie, on ne distinguera pas un mot. Hérodote lisait son histoire au peuple de la Grèce, assemblé en plein air, et tout retentissait d'applaudissements. Aujourd'hui, l'académicien qui lit un mémoire, un jour d'assemblée publique, est à peine entendu au bout de la salle. Si les charlatans des places abondent moins en France qu'en Italie, ce n'est pas qu'en France ils soient moins écoutés, c'est seulement qu'on ne les entend pas si bien. M. d'Alembert croit qu'on pourrait débiter le récitatif français à l'italienne. Il faudrait donc le débiter à l'oreille, autrement on n'entendrait rien du tout. Or, je dis que toute langue avec laquelle on ne peut pas se faire entendre au peuple assemblé est une langue servile. Il est impossible qu'un peuple demeure libre et qu'il parle cette langue-là. Je finirai ces réflexions superficielles mais qui peuvent en faire naître de plus profondes, par le passage qui me les a suggérées. Ce serait la matière d'un examen assez philosophique que d'observer dans le fait et de montrer par des exemples combien le caractère, les mœurs et les intérêts d'un peuple influent sur sa langue.